bonjour à tous, frères et sœurs, et comme chaque dimanche, c'est toujours une joie de nous retrouver voilà, pour célébrer notre Dieu, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Alors, ce matin encore, nous avons ce privilège d'être là, et merci à Jean-Louis pour cette première partie, en tout cas sous le signe de la reconnaissance et de l'adoration. Alors, nous voulons continuer donc à adorer notre Dieu à travers l'écoute de sa parole. Je vous propose un verset tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 3. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Nous l'avons entendu, que la parole de Dieu, voilà ce qui crée. C'est la parole qui a créé toutes choses. Voilà, il a été dit dans ce psaume 33, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà, nous voulons entendre cette parole qui est créatrice et que l'écoute de cette parole nous transforme et fasse toutes choses nouvelles dans nos vies. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Car les circoncis, c'est nous, dit l'apôtre Paul. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions dans le Seigneur Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Jusqu'ici donc, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce texte, à travers ce verset, nous allons essayer de parler de la signification de la circoncision. Ainsi, ce verset présente en peu de mots ce que moi j'entends par le caractère de la foi chrétienne, le caractère du christianisme. Il est constitué, ce verset, vous voyez, d'une seule phrase, mais ayant quatre affirmations puissantes, avec en premier lieu ce que j'appelle moi la déclaration principale. Car, dit l'apôtre Paul, les circoncis, c'est nous. Dans d'autres versions, il est dit car la circoncision, c'est nous. Car les circoncis, c'est nous. Et cette déclaration principale est ensuite suivie de trois autres déclarations secondaires, mais qui ont pour but, en fait, d'expliquer la déclaration principale. Car les circoncis, c'est nous. L'apôtre Paul fait allusion à nous, évidemment, qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu la vie du ressuscité. Cette première déclaration qui nous est donnée ici pourrait paraître quelque peu surprenante, car les circoncis, c'est nous. L'apôtre Paul, dans ses écrits, insiste constamment sur le fait que les chrétiens ne sont pas sous la loi. Loi dans laquelle la circoncision, évidemment, joue un rôle principal, un rôle de premier plan, d'après l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 4. La circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et ses descendants, d'après Genèse, chapitre 17, versets 10 à 11. Bien plus tard, justement, les nations païennes ont été appelées les incirconcis et les juifs, à leur tour, ont été appelés les circoncis. Galates, chapitre 2, verset 7. L'incirconcision, est une figure de la nature humaine, une image de la chair avec sa méchanceté et son impureté, tandis que la circoncision est une figure de jugement exécuté sur la chair pécheresse. La signification spirituelle de la circoncision était certainement connue des Philippiens lorsque l'apôtre Paul leur adresse cette lettre aux Philippiens. Mais je vous invite à nous tourner dans une autre lettre où nous allons trouver, en tout cas, l'explication au sujet aussi de la circoncision. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et nous reviendrons sur Philippiens 3:3. Il est écrit, Colossiens 2:11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, toujours dit l'apôtre Paul, hein, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Contrairement à la circoncision dans l'Ancien Testament, la circoncision de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ n'est pas faite, dit l'apôtre Paul, de main, c'est-à-dire de main d'homme. Il s'agit d'une opération d'ordre spirituel réalisée par Dieu lui-même. Dans le type de l'Ancien Testament, un petit morceau de chair était coupé. Dans ce qu'on appelle l'antitype du Nouveau Testament, c'est tout le corps de la chair qui est dépouillé, en tout cas dans un sens figuré. Il ne s'agit là ni de notre corps, ni de notre nature pécheresse que nous possédons encore. Le corps de la chair, dont parle l'apôtre Paul, évoque l'ensemble du système du péché dans la chair. Il est question ici du jugement de Dieu sur le vieil homme et de notre mise de côté du vieil homme avec toutes ses actions. Il n'est pas enseigné ici que, comme croyants, nous ayons mis de côté ou dépouillé la chair, c'est-à-dire notre vieille nature. La parole de Dieu ne dit pas dépouillement de la chair, mais dépouillement du corps de la chair. Si nous avions dépouillé la chair, bien-aimés, ça veut dire que nous ne pécherons plus jamais. Ou encore, nous ne vivrions plus, finalement, sur cette terre. La circoncision qui n'a pas été faite, dit l'apôtre Paul, de main d'homme, dans le dépouillement du corps de la chair, décrit d'une manière figurée le jugement sur le vieil homme et notre mort avec le Christ. Alors, me diriez-vous, y a-t-il une différence entre le vieil homme d'un côté et la chair de l'autre? En réalité, il vaudrait mieux d'ailleurs parler de nuance. Nuance au lieu de différence. Simplement parce que les choses qui sont dites de l'un, c'est-à-dire du vieil homme, et de l'autre, de la chair, les choses qui sont dites de l'un et de l'autre, sont très proches. Le vieil homme, aussi bien que la chair, sont caractérisés essentiellement par les convoitises, selon Éphésiens chapitre 4, verset 22. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, et ceux qui sont en Christ, nous dit l'apôtre Paul, ont aussi crucifié la chair. Galates 5, 24. Dans les deux cas, c'est chose faite. Le chrétien a dépouillé le corps de la chair, tout comme le vieil homme, selon Colossiens chapitre 3, verset 9. Ceci dit, la chair est donc le terme habituel qui désigne la source, l'origine active de tout ce qu'on appelle convoitise de la chair. C'est cet irréductible rebelle à la volonté de Dieu, cet ennemi de Dieu qui se trouve en moi. Ce terme « chair » est utilisé aussi bien pour caractériser notre conduite d'autrefois sans Christ, que pour mettre aussi en garde, voilà, nous mettre aussi en garde contre une démarche, une vie chrétienne qui ne serait pas différente de ce qu'on appelle les non-chrétiens. La chair, c'est donc le principe du mal. Le principe du mal qui existe dans les hommes descendants ou descendus d'Adam pécheur et qui est source de tout péché, principe qui évidemment n'existait pas dans l'humanité parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas d'ailleurs descendant d'Adam. La parole de Dieu donc ne dit pas dépouillement de la chair, mais dépouillement du corps de la chair. Je disais tout à l'heure que si nous avions dépouillé la chair, nous ne pécherions plus jamais, ou nous ne vivrions plus finalement sur cette terre. La circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, dans le dépouillement du corps de la chair, décrit donc de manière figurée le jugement sur le vieil homme et notre mort avec Christ. C'est bien là un fait accompli qui est expliqué par ensuite l'expression « la circoncision de Christ ». Oui, ces mots désignent sa mort sur la croix. Là, Christ a souffert pour nous dans sa chair. Sur lui, Dieu a condamné le péché dans la chair, d'après l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 3. De plein gré et par amour pour nous, il est mort, justement, ayant subi le jugement de Dieu sur la chair. Bien qu'en lui, c'est-à-dire en sa chair, il n'y avait point de péché. Telle est la circoncision du Christ, expliquée dans Romains, chapitre 6, versets 6 à 7. Celui qui croit en lui maintenant peut avoir part à cette circoncision qui a pour résultat en nous le dépouillement du corps de la chair. C'est la fin du vieil homme, notre mort avec Christ, ainsi qu'il est dit ensuite dans les versets 12 de Colossiens 2, ayant été enseveli avec lui dans le baptême. Le résultat donc de cette circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, l'apôtre Paul le décrit dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Par cette courte déclaration, car nous sommes la circoncision. Les circoncis, c'est nous, dit l'apôtre Paul. À cette époque, les faux docteurs cherchaient à persuader les croyants qu'il fallait garder la loi. Et particulièrement se faire circoncire pour devenir chrétien, pour jouir des bénédictions de Dieu, conformément à la mort et à la résurrection de Christ. L'apôtre Paul renverse leur raisonnement et les qualifie de chiens, de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Il les dénonce comme étant ceux qui propagent une caricature de la vraie signification de la circoncision. Par contre, celui qui par la foi a part à la circoncision du Christ et qui est circoncis spirituellement appartient donc à la vraie circoncision, non pas à Israël, mais à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte à l'Église de Christ. Toute sa joie, toute sa gloire repose sur le Christ Jésus, son glorieux Rédempteur, en qui il trouve, en tout cas, il a trouvé toutes les richesses et tous les trésors de la connaissance. Il ne sert plus les éléments, comme l'apôtre Paul dit, les rudiments du monde auxquels appartient aussi la loi. Mais il offre un culte au seul vrai Dieu par son esprit. C'est là le véritable caractère de la foi chrétienne. Toutefois, pour jouir pleinement de la circoncision de Christ, nous devons la réaliser pratiquement et condamner tout ce qui vient de la chair. Pour cela, bien-aimés, il ne suffit pas de savoir que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous devons nous-mêmes aussi faire le pas suivant. Celui que nous voyons chez les chrétiens d'Éphèse et de Colosse. L'apôtre Paul dit « Ils avaient dépouillé le vieil homme et revêtu le nouvel homme. » Ils ne s'identifiaient plus avec le vieil homme, mais avec le nouveau qui correspond bien évidemment à la nature du Seigneur Jésus. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous présente cela par son propre exemple, après avoir dit « car les circoncis, c'est nous », il montre que la chair ne doit pas avoir le moindre champ d'activité, la chair. Toutes les choses hautement honorables, même pour un juif, lui, l'apôtre Paul, il les avait possédées avant sa conversion. Mais à cause, dit-il, de l'excellence de la connaissance de Christ, il les avait estimées comme une perte. Tout ce qui l'empêchait de croître dans la connaissance du Christ, il l'avait laissé derrière lui. tout ce en quoi la chair se confie, il le considérait comme une perte et même comme des ordures, en comparaison, bien entendu, de l'excellence de la connaissance d'un Christ mort et ressuscité. Notre chair bien-aimée ne peut pas et ne veut même pas d'ailleurs avoir affaire avec la vie céleste dans laquelle Christ nous a introduits. Elle s'accroche aux choses de ce monde et ne peut pas s'élever au-dessus d'elle. Pour couper le lien avec elle, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort dans la circoncision est une figure. Il n'y a que la mort. Viennent maintenant les développements ou les explications de la première déclaration. D'abord, dit l'apôtre Paul, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. L'apôtre nous présente ici le caractère du culte chrétien, le caractère de notre culte. Pour le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le service dans la tente et dans le temple était réglé par la loi jusque dans les moindres détails. Mais dans le Nouveau Testament, ces ordonnances pour le culte, comme on les appelle, sont appelées des ordonnances charnelles. Hébreux chapitre 9, versets 1 jusqu'à 10. La loi a été abrogée à cause de sa faiblesse, car elle n'a rien amené, dit le temple épître aux Hébreux, à la perfection. Hébreux chapitre 7. Christ est la fin de la loi, car dans sa mort, dit l'apôtre Paul, il a tout accompli. Il a accompli la loi. Pour le culte chrétien, les prescriptions et les formes de l'époque de l'Ancien Testament sont donc dépassées, sont donc entièrement révolues. Nous qui sommes au bénéfice de l'œuvre incomparable de la rédemption, mais parce que nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons une multitude, voyez, de sujets d'émerveillement que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas. Quand nous comparons ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en Christ, par le Dieu Sauveur. Une expression de cette louange qui jaillit du cœur est donnée dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés. Coupables, nous avons été pardonnés, méritant le jugement. Nous avons été justifiés, souillés. Nous avons été purifiés, esclaves du péché et de Satan. Nous avons reçu la rédemption, nous avons été rachetés. Morts dans nos péchés, nous avons été vivifiés. Dans les ténèbres, nous avons été amenés à la lumière de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, devenus enfants de Dieu, membres du corps de Christ, des pierres vivantes, une maison spirituelle. Dit l'apôtre Pierre, un saint sacerdoce. Bien-aimés, que de sujets de reconnaissance envers Dieu. Nous comprenons par là que le culte rendu par l'Esprit de Dieu d'un côté et notre adoration de l'autre sont étroitement liés à notre connaissance, notre vraie connaissance de ce Dieu sauveur et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait pour nous. En fait, Dieu cherche, nous dit la Bible, des adorateurs en esprit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il exige comme un commandement de la loi. Non, la vraie adoration ne peut être qu'une chose spontanée, venant du cœur. Pour nous, rendre un culte par l'Esprit de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la louange qu'il convient d'adresser au Fils de Dieu. Dit la Bible, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Autrement dit, c'est rendre à Dieu l'honneur qui lui revient pour ce qu'il est, et lui exprimer la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, et pour ce qu'il a fait de nous aussi, Et on le fait spécialement quand on se rassemble ensemble, on se rassemble entre croyants. Cependant, vous voyez que ce ne sont pas les formes extérieures qui déterminent le culte. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige en tout. Il s'ensuit que le culte décrit dans ce verset ne peut être rendu que par ceux qui connaissent véritablement la valeur de leur salut. Et par conséquent, ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est évidemment Dieu en esprit. Son habitation en nous est un privilège immense. Il nous a été envoyé par le Seigneur glorifié, le Saint-Esprit. Et il connaît tout ce qui est dans le ciel, le Saint-Esprit. Il connaît la gloire de Jésus assis à la droite de Dieu. Et il nous présente justement cette gloire. Et de cette manière, il le glorifie dans la vie de l'Église. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Cette personne divine, le Saint-Esprit, qui habite en nous, connaît, dit la Bible, et sent de même les choses profondes de Dieu. Et c'est lui qui a vocation de nous les communiquer. Adorer le Père en esprit et en vérité ne peut avoir lieu que sous la direction, évidemment, du Saint-Esprit. Tout apport de l'homme, vous voyez, provient donc de la chair et ne peut que troubler ou en quelque sorte détruire. Seul l'Esprit peut nous enseigner comment adorer Dieu comme Père. Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire en accord avec sa nature divine et la pleine révélation de Dieu dans le Fils Jésus. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient d'une part un rappel constant du péché et d'autre part la préfiguration du seul sacrifice de Jésus. Si donc nous voulons rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité, l'objet principal de notre adoration ne peut être que le Seigneur Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Dans la gloire, il sera devant nous tel l'agneau immolé et au milieu du trône. Le culte, frères et sœurs, est, je dirais, la partie la plus élevée du service chrétien. Quand nous venons au culte, bien-aimés, ne prenons pas ce moment à la légère. Dieu accorde une importance considérable au culte. Même si le vrai culte, la vraie adoration ne seront parfaits que dans la gloire future, quand il n'y aura plus aucune influence charnelle en nous et autour de nous, en paix et sans entrave, nous contemplerons, oui, alors notre Seigneur dans la gloire parfaite, dans son amour, dans sa grâce et dans sa justice. Ainsi, nous l'adorerons éternellement. Tous les autres services, nous dit la Bible, auront cessé. Mais l'adoration, le vrai culte, subsisteront éternellement. Maintenant, voici la deuxième explication. Et nous qui nous glorifions en Jésus-Christ. Se glorifier, bien-aimé dans le Seigneur, signifie être fier ou se vanter, ce qui le plus souvent n'est pas une bonne chose pour les chrétiens. Se glorifier, se vanter. Le Nouveau Testament mentionne beaucoup de choses dont nous ne pouvons et ne devons pas nous glorifier. Dans le monde, nous le savons, les hommes cherchent la gloire dans leur performance, dans leurs capacités, dans leurs caractéristiques, mais combien éphémère, vaine ou même malsaine est cette gloire. Tout est fondé sur l'homme, sur sa chair, bref, sur le péché qu'il habite. Cette mauvaise gloire, attention, peut même se développer chez les chrétiens. Voilà pourquoi l'épître de Jacques nous met en garde justement contre cette situation. Bien sûr, il s'agit de savoir de quoi on se glorifie, de quoi on est fier ou on doit se vanter. Celui qui, à la lumière des Écritures, a reconnu qu'il est un pécheur et a cru au Seigneur Jésus, a accepté le jugement de Dieu sur le vieil homme et qui donc appartient désormais à la circoncision spirituelle, comme nous l'avons vu, celui-là sait dorénavant qu'il n'y a en lui, en fond, aucun motif de se glorifier. Par contre, il trouve maintenant tous les motifs de se réjouir, de rendre grâce et de se glorifier dans le Christ Jésus qui est à la droite de Dieu. Avec foi, c'est là-haut qu'il regarde. Mais parce que tout ce qu'il possède de précieux est fondé sur l'homme glorifié dans le ciel, qui est Jésus-Christ. Il nous rend apte, lui, le Christ, à une vie de sainteté pratique, et il nous accordera au terme de notre marche, au terme de notre chemin de foi, la pleine et entière délivrance. Il a tout pourvu pour nous, pour le temps présent, comme pour l'éternité, avec une grâce parfaite et aussi avec un amour parfait. Celui qui sait cela par la foi peut joindre sa voix à celle de l'apôtre Paul à la fin de la première aux Corinthiens au chapitre 1 et dire que celui qui se glorifie, justement, se glorifie dans le Seigneur. Après des paroles si sérieuses et si claires à l'égard de la chair et de la vieille nature dans le croyant, on pourrait penser que la quatrième et dernière partie de ce verset, voyez, n'est plus du tout nécessaire en quelque sorte. Et qui n'avons pas confiance, ou qui n'avons point confiance en la chair. Puisque la circoncision fait référence au jugement impitoyable de Dieu sur la chair, jugement que le Seigneur Jésus a pris sur lui à la croix, puisque le culte dont la présence et la puissance du Saint-Esprit nous montrent déjà la nouvelle orientation de notre vie et la nouvelle direction sous laquelle nous sommes, et puisque la glorification dans le Christ Jésus est bel et bien en contraste absolu, en opposition avec toute, justement, confiance et toute glorification en la chair, on pourrait penser que la confiance en la chair est totalement éliminée. Et pourtant, l'apôtre Paul ajoute, et qui n'avons pas confiance en la chair? Nous ne devons pas seulement savoir que la chair est incorrigible, nous devons aussi être conscients de son activité continue. Durant notre vie ici-bas, nous ne pouvons pas nous séparer définitivement d'elle. Elle nous accompagne, elle nous accompagnera jusqu'au moment où le Seigneur nous enlèvera de la terre. Donc, aussi longtemps que nous y sommes, il nous faut chaque jour réaliser à nouveau ce que l'apôtre Paul déclare. Ce qui est bon, dit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains chapitre 7, verset 18. Lorsque nous reconnaissons cela, il doit nous être clair que nous ne pouvons mettre aucune confiance en la chair. Nous devons au contraire avoir la plus grande défiance envers elle. Elle ne se soumettra jamais à la pensée de Dieu, nous dit la Bible, mais parce qu'elle en est incapable. Et c'est sous ces côtés apparemment bons que la chair est particulièrement à craindre, comme nous pouvons le voir dans la liste des mérites dont l'apôtre Paul, autrefois le pharisien Saul, se glorifiait avant sa conversion, la suite de Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Satan, bien-aimé, a largement réussi à faire disparaître des esprits la corruption totale de la chair. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont plus conscients du danger que représente la chair pour leur vie spirituelle. Ainsi, ils deviennent insouciants, indifférents et perdent en quelque sorte leur force spirituelle. Les Philippiens, quant à eux, ne couraient certes pas ce danger. Et pourtant, l'apôtre place devant leurs yeux et aussi devant leur cœur, dans ce verset de grande portée sur lequel nous nous sommes arrêtés, le vrai caractère de la foi chrétienne, le vrai caractère du christianisme. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela serve aussi à notre instruction spirituelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, la vie chrétienne à laquelle tu nous as appelés En réalité, c'est une vie que nous ne sommes pas capables de vivre de nous-mêmes. Voilà pourquoi à chaque instant, nous avons besoin de toi, de la vie de la résurrection, pour nous conduire, pour diriger toutes choses. Par ta parole, Seigneur, fais toutes choses nouvelles chaque jour en nous, et que le Christ ressuscité puisse chaque instant se manifester à travers nous, car lui seul, et lui seul peut vivre la vie chrétienne en chacun d'entre nous, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Mm-hmm.